Salut tout le monde et bienvenue au podcast pour la route. Aujourd'hui, un sujet assez où je plonge dans mes souvenirs pour vous parler de tous les pires moments qu'on a vécu sur la route. Ça va faire bientôt 8 ans au mois de mai, ça va faire 8 ans qu'on partait pour notre premier voyage, qu'on débutait le projet Prêt pour la route. Et c'est sûr qu'en voyageant autant, en faisant autant de kilomètres, on a dû traverser les États-Unis à plusieurs reprises, le Canada aussi. On est venu au Mexique, c'est notre troisième hiver au Mexique. Fait qu'on en a vécu des péripéties, des aventures, des mésaventures, des moments où on s'est senti un peu plus en danger, où on a eu peur. Puis là-dedans, j'ai dans ma liste, j'en ai ciblé 7 moments en plongeant dans mes souvenirs. Mais il y en a peut-être un peu plus, mais c'est les 7, je pense, qui me sont venus en tête où on a vraiment eu soit un sentiment de danger ou d'insécurité, parce que je veux pas, quand on part comme ça à l'étranger, on n'est pas, en sécurité comme chez nous, dans notre petit cocon. C'est toujours un petit peu plus risqué. On prend des risques en voyageant, ça fait partie de la vie. Autant des risques matériels avec notre argent, nos investissements, notre véhicule, que des risques de danger pour notre sécurité personnelle, pour notre santé. Fait que, bref, aujourd'hui, on va jaser de ça. Puis c'est un sujet qui m'est souvent demandé aussi, entre autres, par rapport au Mexique, parce que les gens ont tellement je pense que les médias font tellement un mauvais portrait du Mexique en termes de sécurité, de criminalité, de danger. J'ouvre avec ça parce que j'en ai pas de mes aventures au Mexique en lien avec la sécurité, le danger, les cartels, etc. C'est pas quelque chose qu'on a jamais été confronté. J'ai jamais croisé une police corrompue qui nous a arrêtés. Les seuls événements plus négatifs qu'on a vécu, c'est peut-être des petites arnaques ou des gens qui essaient de profiter du fait qu'on est des touristes. Mais ça, c'est... Ça, on va le vivre dans tous les pays quasiment qu'on va visiter dans le monde. Il y a toujours des attrapes touristes, il y a toujours des petits twists comme ça que les gens profitent des gens qui ne sont pas de la place. Fait que ça fait partie de la vie, mais je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un essaie de nous arnaquer qu'on se sent en danger nécessairement. C'est peut-être juste des petits irritants. Mais je pourrais vous confirmer qu'au Mexique, on n'en a jamais vécu de mésaventures ou de dangers par rapport à tout ça. Je pense qu'en restant des bons touristes, je veux dire, en utilisant notre bon jugement, en n'allant pas dans les endroits qui ne sont pas recommandés, en ne prenant pas de drogue ou d'alcool, en ne sortant pas trop tard le soir dans les bars, en ne roulant pas la nuit sur les routes, je pense qu'en faisant tout ça, on maximise nos chances de vivre le moins possible de mésaventures. Mais bref... Je pense qu'il faut sauter ça de la tête. Juste en regardant le taux de criminalité par habitant au Mexique, c'est très similaire à ce qu'il y a aux États-Unis. Fait que je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de se sentir plus en danger de ce côté-ci de la frontière qu'aux États-Unis. Peut-être qu'au Canada ou au Québec, on a peut-être un taux de criminalité qui est plus faible. Mais si vous voulez sortir du pays, c'est sûr que ça vient avec son lot de risques. Puis peut-être qu'il est arrivé une histoire au mononcle du mononcle ou du cousin de quelqu'un. Mais bref, nous, personnellement, on n'a jamais vécu aucune de ce genre d'histoire-là de danger ou d'insécurité. Puis je me croise les doigts qu'on n'aura jamais à faire face à ça. Fait que sans plus tarder, on va débuter notre sujet. Aujourd'hui, j'ai pas de commanditaire sur le podcast, mais je vais vous jaser un petit peu de les différentes options, parce qu'il y a beaucoup de monde, là, maintenant qu'on a fait la transition, où les vidéos ne sont plus sur Facebook, sont juste sur YouTube. J'ai eu des commentaires de des gens qui trouvaient qu'il y avait trop de publicité sur YouTube. Mais il faut savoir que les publicités sur YouTube, c'est notre seul revenu qui découle, à part quand on a des commanditaires, mais là, dans ce cas-ci, il n'y en a pas. C'est le revenu qui découle de ces vidéos-ci. Donc, nous, on n'est pas payé par personne autre que par ces publicités-là. Si vous voulez ne plus avoir ces publicités-là puis regarder nos vidéos sans publicité, l'option qui s'offre à vous, c'est de joindre la famille Prêt pour la route sur Patreon. Ce que ça vous permet de faire, c'est que d'un, les vidéos vont être disponibles sans aucune publicité, mais vont aussi être disponibles à l'avance, au moins 24 heures, mais d'habitude, aussitôt que la vidéo est prête, qu'elle a terminé le montage, que Valérie a terminé son montage, moi, je la mets en ligne sur Patreon directement. Fait que tous les membres de la famille y ont accès, peu importe le niveau que vous êtes, et ils vont y avoir accès sans publicité. Donc ça, c'est un bon truc si vous n'aimez pas la publicité puis que vous voulez regarder des vidéos, si c'est des sujets qui vous interpellent, qui vous intéressent. Puis en même temps, ça vous permet de nous encourager à partir de 2 US par mois. Donc c'est une façon pour nous de financer nos aventures en même temps, parce que je veux pas, c'est coûteux de faire des voyages comme ça. Puis tout l'équipement qu'on utilise pour faire les vidéos aussi coûte de l'argent. Ça, on veut avoir une bonne qualité d'image, qualité sonore. Ça prend plein d'équipement, ça prend du temps qu'on investit, de la recherche pour trouver nos sujets et tout ça. Fait que c'est notre façon de financer nos aventures. Fait que si ça vous intéresse de joindre la famille Prêt pour la route, je vais vous mettre le lien dans la description pour joindre Patreon. Puis sinon, ben, vous pouvez continuer à les regarder sur YouTube avec les publicités, puis c'est bien correct comme ça. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça ne coûte rien sur YouTube, puis ça vous permet d'être averti quand il y a des vidéos, puis de les voir dans votre fil quand vous allez ouvrir votre application YouTube. Donc, j'entre dans mon sujet d'aujourd'hui, les pires moments qu'on a vécu sur la route en 8 ans. Le premier, puis ça c'est un peu un arrière-scène d'une vidéo parce qu'on ne l'a pas présenté dans la vidéo. On n'a pas filmé ces moments-là, puis souvent, il y en a quelques-unes de mes aventures qu'on a filmées, puis il y en a que non. Puis des fois, les pires moments, souvent, on les a pas filmés parce que justement, on est comme en mode survie. On essaye de ne pas mourir, des fois. Fait que la première, c'est ça se passe dans l'Ouest canadien. Il y a un épisode vraiment qu'on a filmé au complet là-dessus. C'était la première fois qu'on allait faire du ski de randonnée. On était dans le parc national de Jasper. Puis, on a fait des grosses erreurs de débutants. On est partis juste nous deux avec aucun guide, on n'a pas averti personne. Et puis, le ski de randonnée, c'est quand même un sport qui comporte des risques, que ce soit des risques de blessures ou des risques d'avalanche, surtout dans l'Ouest canadien. Et l'idéal, c'est au moins d'avertir quelqu'un qu'on va partir à l'avance. Donc, ça aurait pu être des membres de notre famille pour qu'au moins on les rappelle après pour juste avoir un point de contact, que quelqu'un sache où on est s'il nous arrive quelque chose. Parce que veux pas, quand tu fais du ski de randonnée, si tu te blesses dans le milieu de la forêt puis que personne ne sait que tu es là, c'est très dur de te retrouver, puis c'est très dur de t'évacuer de là. Puis avec les températures qui sont très froides dans les montagnes, quand arrive la nuit, c'est pas évident de survivre si jamais t'es pris dans le bois. Fait qu'on est parti avec aucun équipement de sécurité. On avait juste, je pense, une barre tendre pour survivre. On avait des vêtements chauds, par contre, on était bon pour ça. Et on n'avait aucun signal cellulaire pour appeler à l'aide. On n'avait pas non plus de petits bidules GPS, de Garmin ou de trucs pour faire des appels satellites. Là, maintenant, on a remédié à la situation depuis cette mésaventure-là. Puis on a commencé, puis vu que c'était notre première fois, je pense que ça aurait été vraiment important qu'on y aille avec quelqu'un d'expérience, un guide, ou au moins qu'on avertisse des gens. On est parti. En plus, question d'ajouter un niveau de difficulté de plus, déjà que c'était notre première fois, on a amené tout notre équipement de caméra. Donc moi, j'avais un gros sac à dos très lourd d'équipement pour filmer toute la journée. Fait que la journée avançait tranquillement. On a commencé notre montée de la montagne très tard aussi. On est parti, je pense qu'il était midi ou une heure. On aurait dû partir bien plus tôt dans la journée parce que la noirceur tombe assez rapidement dans les montagnes. Et ça, c'est ce qu'on avait sous-estimé. Fait qu'on commence à monter, on filme, on a du plaisir, tout va bien. Puis là, en arrivant proche du sommet, Val commençait à être un peu fatiguée. Elle pensait pas être capable de se rendre jusqu'au sommet. Puis on était quand même assez proche du sommet. Fait que je me suis dit, question pour que la vidéo soit intéressante, je vais me rendre moi au sommet, que Val m'attende à l'endroit où elle était, puis qu'elle commence sa transition pour défaire ses skis, mettre ses peaux, enlever ses peaux pour pouvoir se préparer à la descente parce qu'on était rendu comme au sommet de la montagne. Et moi, j'arrive en haut. Et au moment où j'arrive en haut, le soleil se couche derrière la montagne très rapidement. Le vent se lève, les nuages arrivent, le froid, c'était très, très froid tout d'un coup. Pourtant, il faisait super chaud pendant la journée. Là, on n'était pas dans des températures très, très froides, mais là, avec le vent très froid, c'est venu tout d'un coup nous geler. Mes caméras ont commencé à geler. J'ai même eu de la misère à filmer le retour. Là, je me suis dépêché à m'habiller, à faire ma transition, parce que là, veux pas, quand tu redescends, bien là, tu te rhabilles, tu rajoutes des couches de manteau. Ça prend quand même du temps. Moi, en plus, j'ai un split board, fait que c'est plus long à le reconnecter ensemble. Fait que j'ai tout fait ça. Je commence à descendre, puis j'avais pas eu aucune nouvelle de Val depuis ce temps-là. Ça faisait à peu près 15 ou 20 minutes. Je commence à descendre, puis là, je trouvais ça long avant de croiser Val. À un moment donné, j'ai fini par croiser Val et elle avait très froid, était un peu paniquée justement parce qu'elle avait très hâte que j'arrive pour commencer à descendre justement vu qu'elle commençait à geler. Puis on commence notre descente, puis c'est vraiment plus difficile que ce qu'on pensait. C'est notre première fois à faire du backcountry, à descendre, tu sais, pas dans des pistes qui sont damées. Il y a épais de neige. La piste qu'on avait prise était une piste un peu débutante, là. C'était pas pas tout à fait une piste, mais plus une trail. Là. Mais c'était une trail qui n'avait pas un très haut dénivelé, justement, vu que c'était notre première fois. Mais le problème, c'est que là, il y avait tellement épais de neige qu'on arrivait à peine à descendre. Il aurait fallu idéalement avoir eu un peu plus d'expérience, qu'on garde nos peaux en dessous de nos skis, puis qu'on continue à descendre juste avec nos peaux. Puis ça nous aurait permis de se redonner un swing quand il n'y avait plus assez de pitch, quand la pente n'aurait pas été assez à pic pour nous aider à descendre. Fait que ça nous a pris une éternité à descendre. J'étais un peu inquiet parce que, justement, on était débutants. Il faisait très froid, puis je sais que Valérie est moins tolérante au froid que moi. Fait que j'avais un peu peur pour ça. Puis je me disais, s'il faut que je traîne Valérie pour le reste, moi-même étant débutant, je vais peut-être avoir de la difficulté. Puis il y avait épais de neige. C'était très stressant, mais finalement, plus peur que de mal. On est arrivé, il faisait noir complètement. On a dû descendre avec nos lampes frontales pour s'éclairer parce qu'on ne voyait plus rien du tout. Ça aurait pu être très dangereux. Mais finalement, on a été correct. On est arrivé à notre campeur, puis on était au chaud. On a pu se réchauffer rapidement, reprendre la route. Puis on était vraiment dans une montagne seule. Il n'y avait personne d'autre dans cette montagne-là. Le parking en bas de la montagne, il n'y avait aucun autre véhicule. Fait qu'on a remonté tout ça. On a conduit à travers la tempête après ça pour revenir. Et ça aurait pu être très, très dangereux. Puis on s'est senti un peu en danger et un peu imprudent et un peu nono. Mais ça, vous allez voir que ça revient dans plusieurs de mes anecdotes. Des fois, je pense qu'on est peut-être... On prend des risques un peu inutiles dans certaines situations et on apprend de nos erreurs, justement. Mais je peux comprendre que des gens leur arrivent des trucs comme ça, des fois, parce que par insouciance ou par manque de connaissances, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Fait que ça, c'est ma première. La deuxième, ben là, on est dans le même genre de mes aventures. On est encore dans les montagnes. On est au parc national de Glacier, le parc national des glaciers, qui est juste en bas, dans le fond, des Rocheuses canadiennes, qui est comme la continuité des Rocheuses canadiennes aux États-Unis. Des très grosses montagnes, plein de très belles randonnées, des lacs magnifiques. Et là, on faisait une trail, me semble, ça s'appelait la Iceberg Trail, Iceberg Lake, quelque chose comme ça. C'était une rando d'à peu près une dizaine de kilomètres aller, dizaine de kilomètres retour, pas loin de je pense, 15 à 20 kilomètres, quelque chose comme ça, comme durée. Puis nous, ben encore une fois, on part notre journée très tard. On part, je pense, vers l'heure du souper à peu près. On avait comme, à cette période-là de l'année, c'était l'été, puis le soleil se couche très, très tard là, dans cette région-là. Fait qu'on se disait qu'on avait au moins un bon 5 heures d'ensoleillement, mais 5 heures pour faire une vidéo en même temps de faire une randonnée d'à peu près 15 à 20 km, c'est quand même serré comme temps, puis surtout si tu veux profiter de la vue une fois rendu sur place. Fait qu'on commence notre rando, tout va bien, on se rend jusqu'au lac, on a du fun, c'est beau, tout est agréable, on prend le temps de relaxer sur le bord du lac à la fin, on joue à des jeux, on s'amuse. Puis là, un moment donné, on se rend compte que le soleil commence à partir et assez vite, parce qu'encore une fois, on est dans les montagnes, puis le soleil passe derrière les montagnes et c'est pas long qu'il fait noir. Puis là, on commence notre randonnée du retour dans le noir. On n'est pas bien équipé, on n'a même pas de lampe de poche. C'est un parc où il y a énormément de grizzlies, où il faut faire vraiment attention pour les ours. On n'a même pas de bear spray, on n'est même pas équipé pour ça. Fait que tout ce qu'on a comme arme, c'est de faire beaucoup de bruit. Fait qu'on parle fort, on joue à des jeux, on clappe dans nos mains, on fait du bruit tout le long en revenant pour espérer de ne pas tomber sur des ours. On a fait une bonne partie de la randonnée à la course parce que justement, on commençait vraiment à avoir peur. Fait que... On a fini par revenir juste à temps. Et il faisait complètement noir à la fin. On a encore une fois été très chanceux. Mais là, après ça, justement, on s'est équipé de bonnes lampes frontales. On a acheté du bear spray. Fait que, bref, à chacune de ces fois-là où on s'est senti en danger, on s'est équipé pour que ça ne nous arrive plus jamais. Mais ça aurait pu être très dangereux. Puis l'anecdote la plus particulière, c'est que la semaine suivante, on a quitté le parc. Et là, je regarde dans les médias aux États-Unis et il y a un gars... deux gars, en fait, qui étaient partis en vélo de montagne exactement sur la même trail qu'on avait faite. Puis il y en a un des deux qui a été dévoré par un grizzly et qui est mort. L'autre a réussi à se sauver. Puis c'était exactement la même trail une semaine après qu'on soit passé. Fait que tout ça pour dire que ça aurait pu être très, très risqué. Ça aurait pu nous arriver à nous, mais on a été chanceux. Troisième mésaventure ou peur. Le statistique, c'est plus une peur vraiment. Puis c'est le genre de truc qu'on n'a vraiment pas le goût qui nous arrive. C'était la première fois, nous, que ça nous arrivait. T'sais, on se stationne souvent un peu n'importe où avec notre véhicule. Puis des fois, je pense que notre famille ou nos amis trouvent ça un peu spécial ou se sentiraient pas en sécurité. Nous, on a l'impression que quand on ferme nos rideaux, qu'on est vraiment chez nous puis qu'il n'y a rien qui peut nous arriver, c'est comme si on était dans notre petit cocon sécuritaire. Mais là, cette fois-ci, on est en France. On est dans la petite van qu'on avait achetée dans notre petit trafic. Puis on est couché. Ça fait pas longtemps que je viens juste de m'endormir. Je me souviens pas si Val dormait vraiment à ce point-là, mais on n'était pas loin, là. On était vraiment au début de notre nuit. Puis on est stationné dans une aire de camping-car. Donc c'est quand même un endroit sécurisé avec une barrière, mais je veux dire, les gens peuvent rentrer quand même comme bon leur semble dans ce coin-là. Mais ça reste pas, on n'est pas dans un endroit qui est très réputé pour être dangereux. Là, je me souviens plus, on était trop dans quelle région de la France, mais c'était pas un endroit qui était très, très dangereux. Je pense que c'était à La Rochelle, si je me souviens bien. On est couché, puis là, tout d'un coup, on entend quelqu'un qui tombe sur notre véhicule ou qui donne un coup sur notre porte ou sur notre fenêtre, ou du moins sur notre véhicule, qui nous réveille. Nous, on a les fenêtres ouvertes en plus parce qu'il fait chaud. Moi, je me réveille en sursaut. Je rouvre la porte, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai comme eu le réflexe de parler en anglais alors que c'était en France. Mais tu sais, j'étais encore comme dans mes rêves. Puis là, je crie « What the hell are you doing? » Quelque chose de même, je me souviens pas. Puis le gars s'enfuit en courant. J'ai juste eu le temps comme de le voir quitter. Puis là, en le voyant quitter, j'ai vu qu'il courait tout croche. Je pense que finalement, tu sais, ça nous a vraiment fait peur parce qu'on s'est réveillé en sursaut comme en plein sommeil. Mais en réalité, je pense que c'était juste un gars qui était très saoul. Puis en plus, ben nous, on avait comme notre petite tente avec notre toilette juste à côté de notre véhicule. Puis on l'avait attaché avec des cordes sur notre véhicule parce que des fois, il y avait des coups de vent puis notre tente avait tendance à partir au vent. Fait que lui, je pense qu'il passait comme juste derrière notre véhicule puis il a dû trébucher dans les cordes de notre tente de toilette parce qu'il était un peu saoul. Il est tombé sur notre véhicule puis après, quand il m'a vu, il est parti en courant puis il s'est sauvé. Puis finalement, ben, il n'y avait rien de dangereux. C'était juste un gars saoul. Il n'essayait pas de voler rien. Je pense que c'était juste une mésaventure de son côté. Mais nous autres, ça nous a fait bien peur. Puis après ça, ça a été long avant qu'on se rendonne parce qu'on dirait qu'on était comme encore sur le choc de s'être fait réveiller comme ça. Puis je fais une parenthèse avec ça, mais il y a beaucoup de monde qui nous demande souvent si ça nous est déjà arrivé de se faire réveiller par la police pour se faire déplacer parce qu'on était à un endroit où on n'a pas le droit. Bien, en 8 ans, je suis très fier de le dire, ça ne nous est jamais arrivé. On n'est pas des gens qui prennent trop de risques de ce côté-là. On va souvent dans des endroits où on est certain qu'on a le droit de s'installer là. Puis ça ne nous est jamais arrivé qu'on se fasse réveiller en pleine nuit. Il y a une fois, je pense que ça m'est arrivé le matin que je me suis réveillé, que quelqu'un me dit « Ah, vous n'aviez pas le droit de dormir là », mais il a attendu quand même que ce soit le matin. Fait que c'était pas trop grave. La mésaventure numéro 4, bien là, c'est sûr que celle-là, tout le monde va s'en rappeler, puis surtout qu'on vient juste d'y repasser dernièrement, mais c'est la fameuse mésaventure des routes du Mexique avec une vache à la fois. Tantôt, je parlais des dangers du Mexique. Je pense que les dangers du Mexique sont pas mal plus au niveau des routes qu'au niveau des gens au Mexique. Les Mexicains sont un peuple très, très accueillant, généreux, gentil, mais leurs routes sont parfois très, très dangereuses, sont pas adaptées à nos gros VR, surtout quand on avait notre Airstream. Même avec notre Safari Condo, des fois, les boss, les speed bumps, les topés, des fois, sont tellement agressifs qu'il faut vraiment faire attention avec nos VR. Fait que je pense que c'est là qu'il y a vraiment le danger. Mais là, cette journée-là, quand on était à Sotano de las Golondrinas, on était dans les montagnes, puis on s'est vraiment aventuré trop loin dans les montagnes avec notre Airstream. On n'aurait pas dû aller aussi loin. Puis les routes étaient vraiment pas adaptées pour ça, trop minces, des virages à 90 degrés, ça a été hyper stressant. Je pense qu'on a été bénis de revenir avec aucun bris puis que tout soit correct. Moi, je m'attendais à ce que la roulotte soit cassée en deux pratiquement après ça, tellement qu'on avait, on a vécu des moments stressants. Mais finalement, on s'en est bien tiré encore une fois. Celle-là est assez comique. Puis c'est drôle parce que c'est la même journée que ma première anecdote. Ma première anecdote, c'était le ski de randonnée dans l'Ouest canadien à Jasper. Bien, quand on est arrivé dans le parking à cet endroit-là, on était en altitude et on a monté beaucoup pendant cette journée-là parce que là, c'était vraiment des hautes montagnes. Puis, il y a quelque chose qu'on avait sous-estimé, que j'ai appris depuis le temps, c'est que dans les réservoirs des toilettes dans les VR, bien, en fait, là, c'était une toilette portative, là, les petits porta-potty, là. Nous, on avait la Dométique à cette époque-là. Puis, il se crée une pression quand on monte en montagne dans ces réservoirs-là parce qu'il n'y a pas de ventilation. Ils sont fermés hermétiques. La densité de l'air est différente en montant. Ça crée une pression d'air à l'intérieur des réservoirs. Et là, moi, en arrivant à ce stationnement-là, je m'en vais tout de suite dans le campeur parce que j'ai bien gros envie. J'arrive, puis là, je m'assis sur la toilette, je fais mon projet. Et quand j'ai terminé, puis j'arrive pour c'est comme une trappe là, qu'on ouvre en bas. Ça ouvre le réservoir. Et là, toute la pression qu'il y avait dans le réservoir s'est évacuée au moment où je l'ai ouvert. Je ne l'ai pas ouvert délicatement, là, je l'ai ouvert tout d'un coup. Et là, ça a fait un volcan de tout ce qu'il y avait dans le réservoir qui a fait tout sortir ce qu'il y avait dans le réservoir et ce que moi, je venais juste de faire. Fait que ça l'a créé un beau dégât. Fait que là, ça prend une éternité. Moi, je ramasse tout, puis là, je désinfecte tout. Ça a été une grosse job. Puis là, quand j'ai terminé, ben là, je sors dehors, je raconte dans mes aventures à Val, qui, elle aussi, veut aller à la toilette. Fait que là, finalement, Val ouvre la porte pour rentrer. Et il y avait un morceau de numéro 2 que j'avais oublié sur le tapis à l'entrée. Qui, lui, parce que quand j'ai tiré sur la trappe pour l'ouvrir, il y avait tellement de pression. Puis moi, j'ai eu le réflexe comme de tourner ma tête pour pas rien recevoir. Ce morceau-là avait passé par-dessus moi. Il est tombé derrière moi. Et j'aurais jamais cru que ça allait être aussi loin que ça. Fait que je l'avais pas vu du tout. Fait que quand je suis sorti, Val, elle est tombée dessus. Fait que finalement, je suis retourné continuer mon nettoyage avant que Val entre à l'intérieur. Fait que ça, bref, c'était pas des dangers, mais c'est peut-être une mésaventure qui m'est arrivée. Fait que si jamais vous allez en montagne avec ce genre de toilette portative-là, c'est bien important de l'ouvrir délicatement pour laisser sortir la pression d'air avant, puis après ça, de l'ouvrir au complet. Prochain point, ben ça a été... Un long problème que tout le monde a vécu, mais je pense que pour nous, ça nous a touché encore plus que pour la majorité, c'est la pandémie. Nous, on était en 2020, 2020, on était à Puerto Vallarta quand ça a débuté, là, quand les débuts de la pandémie dans les médias ont commencé à s'ébruiter. Puis au départ, on pensait nous laisser passer ça en restant au Mexique puis revenir par après, jusqu'à temps que finalement Justin Trudeau nous oblige pratiquement tous les Canadiens à rentrer au pays parce que sinon, on ne serait pas rapatriés. Fait que là, on a commencé, c'est là qu'on a eu un peu la grosse crainte parce que là, nous, on avait un bon 5-6 jours de route à faire pour retourner au Québec. Puis en plus, ben là, il y avait les menaces de fermer les frontières. Nous, on avait peur qu'on reste pris au Mexique puis que la frontière américaine ne nous laisse pas passer. Là, après, on a appris que finalement, il y aurait comme eu l'obligation de nous laisser passer, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Fait qu'on a été très, très craintifs. On est partis, on a roulé comme des fous. On n'a pas dormi, on a roulé jour et nuit en alternance, Val et moi, jusqu'à temps qu'on sorte du Mexique. C'était un surréel comme expérience. On arrive à la frontière américaine avec le Mexique qui, normalement, est très strict. Ils n'ont même pas demandé nos passeports. Ils nous ont laissé passer. Ils ne voulaient même pas nous toucher, nous parler. C'était vraiment spécial comme expérience. Puis là, après ça, on est arrivé aux États-Unis. La première fois où je suis allé dans un Walmart, on a eu une crevaison. Fait que là, je suis allé voir dans le Walmart. Il avait été dévalisé pratiquement. Tout le monde avait tout acheté, les papiers de toilette, les désinfectants, la nourriture. Il n'y avait plus rien. J'avais jamais vu ça. On aurait dit l'apocalypse. Dans le Walmart, il n'y avait plus rien. C'était vraiment très, très inquiétant. Puis ben après, ça a été toute une épopée pour nous, la pandémie, parce que en tant que nomade, voyageur à temps plein, sans pied à terre à cette époque-là, on était obligé de rester au Québec, passer encore le restant de l'hiver. On a trouvé ça très dur, Val et moi, la pandémie. Ça a été très difficile. Je dirais même que ça a été pratiquement une dépression pour nous. Ça a été dur parce que notre métier était impacté. Notre mode de vie, ça a été difficile à vivre la pandémie. On est bien heureux que ce soit derrière nous puis qu'on puisse recommencer à vivre comme on le voulait à l'époque. Mon septième point, septième moment où on s'est senti en danger, ça, il y a vraiment une vidéo très détaillée parce qu'on a pris le temps de tout filmer. Et c'est aux îles de la Madeleine. On était là, si je ne me trompe pas, en 2019, l'été avant qu'on aille au Mexique, avant la pandémie. On était dans le camping d'une auberge, la Salicorne. Et normalement, quand il annonce un ouragan, une tornade ou une catastrophe météorologique, c'est un gros avantage de vivre dans un VR parce que tu peux juste t'en aller et éviter tout ça. Mais là, ça donne qu'on est sur une île où il faut prendre un traversier. Puis nous, on n'a pas de réservation pour sortir de l'île avant l'ouragan qui s'en vient directement sur nous. Je me souviens plus du nom de l'ouragan, mais quand il est arrivé, c'était très, très épeurant. Il est passé en Nouvelle-Écosse juste avant d'arriver aux Îles-de-la-Madeleine, puis les VR dans les campings s'étaient fait virer de bord. Il y avait eu vraiment beaucoup de dégâts. Puis nous, on n'avait nulle part où se mettre à l'abri. On était pognés dans notre Airstream. On a eu bien, bien peur. Je pense Val encore plus que moi. Quand les vents ont commencé, on avait l'impression, là, c'était comme s'il y avait une équipe de football qui brassait notre roulotte puis qui essayait de la faire chavirer. C'était très, très épeurant. Ça bougeait beaucoup en dedans. On avait peur on avait peur non seulement de se renverser, mais aussi dans le camping où on était, c'était comme la fin de la saison. Fait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient laissé leur VR là avec plein de trucs à l'extérieur, des barbecues, des tables, des chaises. On avait vraiment peur que quelque chose parte au vent puis vienne nous accrocher ou péter une fenêtre ou quelque chose comme ça. C'était bien stressant. On a eu une nuit très, très anxiogène. Après ça, il y a eu la petite portion où on a eu une accalmie le temps qu'on était dans l'œil de l'ouragan. Puis le lendemain, bien, ça a reparti le lendemain matin quand on a pogné l'autre bord de l'ouragan. On s'est fait brasser de l'autre côté, mais finalement, il n'est rien arrivé. Il y a eu quand même beaucoup de bris, surtout des bateaux. Il y a eu quelques bris sur les îles, mais nous autres, on a été safe. Aucun bris, aucun problème. Plus de peur que de mal. Tout s'est bien déroulé pour nous. C'est un peu ça, la morale de toutes mes mésaventures en bout de ligne. Il y a eu plein de moments où on s'est senti en danger, mais on a toujours été très, très chanceux et on a toujours réussi à bien s'en sortir malgré tout. Puis ça fait des bien bonnes histoires à raconter par la suite. Fait que c'est ça mes moments, les pires moments qu'on a vécu en 8 ans sur la route. Je suis curieux de savoir de votre côté, est-ce que vous avez déjà vécu des moments de danger, des moments anxiogènes? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de lire vos histoires et vos mésaventures. Puis merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!